Volume 3. Volume 3. Volume 3. La règle. Mais non, c'est la vibe. Volume 3.
La vibe.
De ta génération.
V3 le mag, votre nouveau magazine sur volume 3 qui traite des questions économiques, sociales et culturelles. V3 le mag, une production mensuelle, préparée et présentée par Nadine Enonga.
Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de V3 le mag, le rendez-vous mensuel de la rédaction sur volume 3.
V3 le mag.
Droit, justice, action pour toutes les femmes et les filles. C'est sous ce thème que se célèbre ce 8 mars 2026 la 41e édition de la Journée internationale des droits de la femme. Cela fait plus de 40 ans que les femmes revendiquent des droits dans la société, une occasion de marquer un arrêt sur ce que disent les textes que nous rappelle Maître Didier Bétain, avocat au barreau du Cameroun.
Ce que prévoit le Cameroun, ce que prévoit le législateur, c'est après ratification des différents instruments juridiques internationaux, tels que les conventions que le Cameroun a ratifiées. Parce que s'il faut parler de la question, c'est une question qui ne touche pas seulement le Cameroun, elle n'est pas spécifique au Cameroun, il est bien vrai, chaque nation a ses spécificités, mais c'est une question qui relève du droit, surtout qui relève sur le plan international. Donc lorsqu'on va parler des droits de la femme et de la jeune fille, lorsqu'on va parler, par exemple, vous disiez tout à l'heure, droit, justice, de la femme et de la jeune fille, surtout en ce moment où la femme est entrée, le monde entier, d'ici quelques jours, va célébrer, n'est-ce pas, la journée internationale de lutte pour les droits de la femme. On fait allusion, n'est-ce pas, au thème général défini par les Nations Unies, qui est droit, justice, action pour toutes les femmes et filles. Alors, de mon côté, je dirais que ça n'appelle à l'égalité des droits, ça n'appelle également à une justice équitable pour les faire respecter, n'est-ce pas, les exercer et en jouir. En quelque sorte, ce thème appelle les nations, invite les nations. Toutes les nations réunies sous la bannière des Nations Unies, n'est-ce pas, à combler les disparités juridiques entre les hommes et les femmes. Parce que lorsque je suis entré, par exemple, dans le site des Nations Unies, j'ai pu lire que les femmes ne bénéficient que de 64% des droits juridiques dont jouissent les hommes à l'échelle mondiale. Alors, si nous devons partir de ce postulat, nous allons constater et observer que dans les domaines fondamentaux de la vie, notamment le travail, l'argent, la sécurité, la propriété, la famille, la mobilité et la retraite, la loi désavantage systématiquement les femmes. Pour moi, le thème de cette année est fort évocateur, il est interpellateur, il est plus que strident. C'est un appel à l'action pour démanteler les obstacles structurels à une justice équitable, comme les lois discriminatoires et autres normes sociales préjudiciables et néfastes, les protections juridiques insuffisantes qui érodent, c'est-à-dire qui portent atteinte aux droits de la femme et de la fille. Alors pour moi, comment est-ce que je peux conclure ça d'une manière générale? Sur le focus, ce thème appelle à garantir des systèmes juridiques inclusifs et éliminer les obstacles structurels. L'objectif étant d'agir pour un avenir féministe où aucune femme ni fille ne sera laissée pour compte. Il n'y a pas de listing en tant que tel. Si nous partons du principe, ou alors si nous adoptons de manière saine les dispositions de l'article 7 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, il est disposé que tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection. Lorsqu'on dit tous sont égaux devant la loi, ça appelle le genre féminin, ça en appelle au genre masculin. Qui sont tous égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection. Ça veut dire que l'homme ne devait pas avoir plus de droits que la femme. On sait généralement que l'homme c'est le chef de famille, mais la femme à côté de l'homme est un adjuvant pour l'homme. C'est pas un esclave comme ce fut à l'époque de la traite négrière où les droits de l'esclave étaient réduits. Il n'avait presque pas de droit, il n'avait presque pas de vie. Mais aujourd'hui, avec l'évolution des choses, cette déclaration est venue consacrer, n'est-ce pas, l'égalité parfaite entre l'homme et la femme. Alors, tout ce que les femmes jeunes comme âgées vivent aujourd'hui, c'est une autre forme de discrimination. Parce que les lois qui leur sont appliquées dans certains pays sont des lois discriminatoires et qui les réduisent.
Il existe des droits, tels que le prévoient les textes, mais quand on parle du genre féminin, sont-ils respectés? Vialingeya a posé la question à quelques citoyens de la ville de Douala.
Le droit des femmes n'est pas respecté au Cameroun parce que les femmes subissent beaucoup de choses comme la violence. Il y a les violences conjugales. On a un manque de moyens financiers. Je ne sais même pas comment m'exprimer parce que vraiment c'est tellement énorme. La femme souffre.
Bon, moi je pense que les droits des femmes sont respectés dans la mesure où, au niveau du travail, moi je pense que quand une femme mérite, on lui donne. Parce que l'expérience a prouvé que quand les femmes, elles ont un poste, elles travaillent. La méritocratie existe encore.
Parlons des droits des femmes. Pour moi, c'est une question très large pour moi parce que parler des droits des femmes, c'est d'abord parler des droits de l'homme en général. Est-ce que les droits des femmes sont respectés? Pas du tout. Puisque pour l'homme, il n'est pas respecté dans le monde entier. Mais maintenant, les femmes, ce qu'elles demandent, elles demandent des privilèges. Parce qu'on appelle plus ça droit, des privilèges. Que je ne suis pas sûr qu'elles puissent y assumer. Parce qu'elles demandent très souvent d'égalité entre hommes et femmes. Il n'y aura jamais d'égalité entre hommes et femmes.
Selon moi, les droits sont respectés comme ce n'est pas respecté. Bon, je vais prendre le côté négatif. Pour moi, c'est pas respecté. Pourquoi? Parce que je vais prendre un cas simple. Quand peut-être la femme est peut-être à l'intérieur de mariage et tout, peut-être l'homme au départ, oui, il aime sa femme et tout, mais après la longue, on entend souvent des choses comme les cromperies, mais pourtant peut-être la femme n'a même pas adapté les comportements néfastes. Soit l'homme tabasse. On va prendre le cas de ce qui s'est passé avec la femme qui a tué ses 3 enfants et s'est donné l'amour également. Donc c'est dans ce sens-là que je suis en train de parler. Quand je dis que c'est aussi respecté, c'est pour dire qu'il y a d'autres personnes qui respectent aussi la femme. Mais je ne sais pas si concrètement leurs droits s'appliquent. Parce que je pense qu'il y a les droits de la femme. Mais je ne suis pas sûre qu'on applique ces droits-là.
Moi, je vois que les droits des femmes ne sont pas respectés au Cameroun, même à 50%. On voit beaucoup de choses qui se passent. Peut-être certaines entreprises ne traitent même pas les femmes comme si ils étaient là comme femmes. Certains, dans leur foyer même, ils ne se traitent pas comme les femmes. On les malaxe comme si c'était un homme, comme si ils étaient égaux aux hommes. Pourtant, ils n'ont même pas la force pour se défendre. Mais tu vas voir un homme bastonner une femme jusqu'à on comprend même déjà ici dehors qu'on coupe déjà la tête d'une femme, on découpe la femme. Tout ça, si les droits étaient respectés, tout ça ne s'est pas trop. On a compris combien de femmes qui ont découpé les hommes. Mais tout ça, c'est parce qu'on ne respecte pas les droits. Quand elles veulent réclamer, ça devient la guerre.
Non, non, le droit des femmes n'est pas respecté au Cameroun parce qu'on a toujours mis la femme au second plan au Cameroun. Que ce soit dans les foyers, que ce soit dans les sociétés, que ça soit dans la vie courante. La femme elle-même d'abord, la plupart du temps elle-même, elle dit toujours que l'homme doit d'abord faire avant que moi je fasse aussi. Donc si elle-même déjà elle se dévalorise, comment on va la valoriser?
Voilà des avis qui divergent. Il faut également préciser que selon les Nations Unies en 2026, les femmes ne bénéficient que de 64% des droits juridiques dont jouissent les hommes à l'échelle mondiale. Tous les 8 mars, il y a une autre bagarre idéologique, celle de l'appellation de cette journée. Finalement, que célèbre-t-on? La Journée internationale de la femme ou la Journée internationale des droits de la femme?
Non, c'est la Journée internationale de la femme, tout simplement parce que ce jour-là, les femmes ne sont pas en train de réclamer le droit. Elles prennent ça pour abuser. On va boire, on va soulever les cabas. pas, on va danser, rentrer à X heures et tout. Donc vraiment, c'est journée de la femme.
Journée internationale des droits de la femme et pas la journée internationale de la femme, parce que la femme, on la célèbre tous les jours, c'est la mère de l'humanité.
Journée internationale des droits de la femme, parce que pour moi, la femme a des capacités à réaliser certaines choses également, et parfois elle est marginalisée aussi.
C'est journée internationale de la femme, parce que c'est un jour où on symbolise l'honneur de la femme. C'est un jour où on met en exergue la valeur de la femme. Quand on dit droit, c'est-à-dire, c'est un peu comme si c'était une obligation, mais non, c'est pas une obligation.
On dit journée internationale des droits de la femme parce que c'est un jour où on célèbre les droits de la femme et non seulement la femme en elle-même.
Journée des droits de la femme. Parce que c'était une journée où les femmes revendiquaient leurs droits, c'est-à-dire le droit au vote, les Américaines, les non-Américaines. Elles voulaient plus de représentation.
On dit journée internationale de la femme parce que c'est la femme qu'on célèbre et non pas le droit qu'on célèbre.
Journée des droits de la femme parce que la femme se joue à l'honneur.
Après ces avis des citoyens, Viali Gueya nous explique ce qu'il en est réellement.
On entend souvent deux expressions, Journée internationale de la femme et Journée internationale des droits de la femme. Pourtant, ces deux appellations n'ont pas exactement le même sens. L'expression officiellement adoptée par l'Organisation des Nations Unies est Journée internationale des femmes. Elle désigne une journée mondiale consacrée aux femmes de manière générale, à leur place dans la société et à leur contribution dans différents domaines. Mais dans plusieurs pays francophones et dans certains contextes militants, on préfère parler de Journée internationale des droits des femmes. Cette formulation insiste sur la dimension revendiquée de l'événement. Elle rappelle que le 8 mars n'est pas seulement une célébration ou un hommage, mais surtout un moment de mobilisation pour l'égalité, la justice sociale et l'amélioration des conditions de vie des femmes. Le contraste est donc essentiellement symbolique. Journée internationale de la femme peut donner l'idée d'une célébration générale, parfois perçue comme festive, alors que Journée internationale des droits des femmes met l'accent sur les luttes, les revendications et les enjeux d'égalité. Aujourd'hui, ce choix de mots reflète surtout la volonté de rappeler le sens profond du 8 mars, promouvoir et défendre les droits des femmes plutôt que simplement les célébrer.
Loin de ces batailles idéologiques, il y a la célébration en elle-même. Elle revêt un attrait particulier au Cameroun. Dans les marchés comme dans les entreprises, les ferves sont si bien visibles, comme a pu le constater Martin Luther Pie.
À l'aube de la 41e édition de la Journée internationale des droits des femmes, les préparatifs s'intensifient. Cette année, plus qu'un simple article d'étalage, le pain du 8 mars est une véritable attraction pour les femmes. Au marché de Bonamoussadi, les clientes affluent chez les couturières.
Ah oui, non, cette année c'est une 8 mars, pas comme les autres. Parce que là, à l'heure, si je compte quand même peut-être 15 pains qui n'ont même pas encore taillé. Et on est déjà à juger.
Non, les gens achètent, les femmes achètent cette année. Les femmes achètent, par exemple, au départ, il y a deux semaines, j'avais plus de 15 pains ici. Et moi seulement, il ne reste qu'un seul là. Et c'est le mien, donc les gens achètent.
Pour les femmes en entreprise, cette journée est un jour de combat d'équité et de réflexion.
Pour moi, le 8 mars n'est pas seulement une journée de célébration, c'est avant tout une journée de réflexion et de prise de parole. C'est un moment où les femmes peuvent s'exprimer librement sur les difficultés qu'elles rencontrent au quotidien, les inégalités, les injustices, les défis professionnels, familiaux et même sociaux. En tant que femme d'entreprise et journaliste sportive, j'ai parfois été confrontée au sexisme, aux préjugés ou aux doutes de mes compétences simplement parce que je suis une femme. Mais je dois reconnaître quand même qu'il y a une évolution progressive et positive même dans notre domaine. Les mentalités changent progressivement et les femmes s'imposent davantage par leur travail et leur professionnalisme. Concernant le port du pagne, pour moi, ce n'est pas un impératif. Je respecte celles qui choisissent de le porter car cela peut symboliser l'unité et la solidarité. Mais personnellement, je pense que l'uniforme ne doit pas être l'essentiel. Le risque est que l'on se focalise plus sur l'aspect festif que sur le véritable enjeu de cette célébration. Je n'ai pas prévu porter le pagne, mais je prendrai part aux activités organisées parce que le plus important reste le message. Continuer à dénoncer les injustices, encourager l'autonomisation des femmes et rappeler que l'égalité L'égalité des chances ou encore l'équité n'est pas un privilège, mais c'est un droit.
Moi, c'est Malédieu Anaïs, plus connue sous le nom de Anaïs Delight. Alors, pour moi, en tant que femme d'entreprise, en tant qu'entrepreneur, le 8 mars représente d'abord la force, la résilience et la détermination des femmes. Parce qu'être entrepreneur, c'est affronter des défis au quotidien, tels que les préjugés, la pression sociale, le manque de respect, le manque de moyens, voilà. Il y a plusieurs autres aspects. Alors, concernant le port du pain du 8 mars, pour moi, ce n'est pas une obligation, c'est un choix. Le plus important n'est pas seulement ce que nous portons, mais ce que nous incarnons. Et moi, j'incarne l'authenticité. Le pain peut être un symbole d'unité et de célébration, mais je suis d'avis que la véritable signification du 8 mars va au-delà. Le 8 mars est un rappel du combat pour l'autonomisation économique et le respect des droits de la femme. Ce que moi, je retiens de cette célébration et ce que nous, la jeunesse, devons retenir de cette célébration, c'est l'importance pour chaque femme de croire en son potentiel, d'oser entreprendre et de ne jamais limiter ses ambitions. Au grand jamais. En tant que chef d'entreprise, je pense que la meilleure façon d'honorer le 8 mars, c'est de créer des opportunités, d'inspirer d'autres femmes et de contribuer au développement de notre société. Voilà. Le 8 mars ne doit pas seulement être un jour de fête et de désordre, ça doit être un engagement quotidien.
Pour moi, le 8 mars n'est pas si nécessaire que ça. C'était vraiment une journée internationale de la femme. Pour moi, ça n'a pas d'importance. Avoir le 8 mars ou ne pas avoir, pour moi, je suis toujours zen. Pour dire quoi? Que ce n'est pas une fête qui passe dans ma tête. Que mon homme m'achète le 8 mars, qu'il n'achète pas. En plus, je ne demande même jamais. Même si mon propos, je dis, je ne veux pas. Peut-être si une amie ou un ami m'achète le pain, ce qui fait souvent, ou je partage, ou je donne à quelqu'un, ou je vends. Je ne porte jamais le 8 mars. Donc ça ne dépendait que de moi vraiment. Je ne sais pas pourquoi certaines femmes s'affolent sur ça. Le 8 mars, si mon mari ne m'achète pas, j'ai fait des problèmes. Tout ça pourquoi? Si je suis un tellement à cœur, même tu peux au marché, tu achètes ton pain. N'attends pas seulement que ton homme t'achète le pain. Comme tu peux aller au marché, tu achètes ton pain. On dit que je viens de la femme, tu fais ce que tu as fait. Si tu veux sortir, tu n'as qu'à sortir, mais tu n'abuses pas. Et moi, je vois que le 8 mars, pour certaines femmes, elles abusent. Genre, comme de la fête de la femme, tu peux faire tout ce que tu veux. Je te mets en l'air autant que possible.
À quelques jours de la célébration, l'effervescence reste palpable dans les marchés comme dans les bureaux. Entre coutures, débats et revendications, le 8 mars s'annonce à la fois festif et engagé. Au-delà du pain, les femmes rappellent que cette journée demeure avant tout un moment de réflexion et de mobilisation pour l'égalité des droits.
Parmi ses activités pour cette 41e édition, la délégation régionale de la promotion de la femme et de la famille du littoral a organisé le 26 février dernier, dans le cadre du lancement des festivités à Douala, une exposition mettant en avant des femmes inspirantes. Et justement, le Cameroun est une terre d'excellence où le talent et la détermination ont permis à de grandes championnes de porter haut les couleurs nationales. Dans ce numéro de V3 Le Mag, nous avons décidé d'allumer les projecteurs sur ces femmes qui se démarquent dans le sport, de la montagne au tatami, Tina Anjongo nous présente 8 figures emblématiques qui ont marqué l'histoire du sport camerounais.
Impossible de débuter cette série sans parler de Sarah Etongue. Elle vient de confirmer son statut d'icône lors de la 31e édition de la course de l'espoir à Boya, placée sous le thème « Donnant une chance à la paix ». Celle que l'on surnomme la reine de la montagne a triomphé pour la deuxième fois consécutive dans la catégorie vétéran. À 59 ans, la septuple vainqueur de l'épreuve reine prouve que la discipline et la persévérance n'ont pas d'âge. Originaire de Boya, elle incarne la résilience pure sur ce parcours mythique de 42 km, dont l'ascension culmine à 4100 mètres d'altitude. Dans la foulée de cette performance, évoquons Françoise Mbango. Spécialiste du triple saut, elle demeure à ce jour la seule athlète camerounaise double championne olympique. Son record de 15,39 mètres à Pékin reste l'un des moments les plus prestigieux du sport africain. Aujourd'hui, elle se consacre à la formation, assurant la transmission de son héritage d'excellence. Toujours sur la piste du succès, passage de témoin notamment à Gaël Nganamoui. Attaquante redoutable, elle a marqué l'histoire en 2015 en devenant la première Camerounaise Ballon d'Or africain. Son triplé en Coupe du Monde reste une performance inédite dans le football féminin. Engagée pour l'émancipation des jeunes joueuses, elle continue d'ouvrir la voie après une carrière internationale exemplaire. Autre terrain, mais même leadership avec Laetitia Moma Bassoko, référence incontestée du volleyball sur le continent. Elle a été la pièce maîtresse des trois titres de championne d'Afrique remportés par les Lions indomptables du volleyball. Sa puissance de frappe sur les parquets internationaux fait d'elle une ambassadrice de choix pour le Cameroun. Mais le compteur de médailles s'affole aussi pour Vanessa Mbala à Tangana, spécialiste des catégories lourdes. Elle a hissé le judo camerounais au sommet de la hiérarchie africaine avec 4 médailles d'or continentales. Sa présence régulière sur les podiums mondiaux et aux Jeux olympiques en fait une source d'inspiration majeure pour la jeunesse. Même discipline de fer, autre sommet avec Auréole Ndogmo. Athlète d'exception, elle a dominé le lancer de poids en Afrique avec 6 médailles d'or avant de poursuivre sa carrière sous les couleurs du Portugal. Championne du monde et d'Europe en salle, sa régularité au plus haut niveau mondial témoigne d'une force de travail remarquable. Le parcours est tout aussi exemplaire pour Ramsès Longlac, arrière polyvalente et leader naturel qui a porté le basketball féminin camerounais vers les sommets historiques, notamment lors de la finale de l'Afrobasket 2015. Formée aux États-Unis, elle apporte aujourd'hui son expertise au service de la formation des futures générations. Enfin, terminons ce tour de piste avec Sarah Anfou, première pongiste camerounaise qualifiée pour les Jeux olympiques. Elle mène une double carrière exemplaire d'athlète et avocate multi-championne d'Afrique. Elle s'investit activement dans la promotion du sport féminin, prouvant que la victoire se gagne sur tous les fronts.
Il faut préciser qu'à l'Antiquité, les femmes ne pouvaient pas participer aux Jeux olympiques où elles ont été admises pour la première fois en 1928 et dans seulement 5 épreuves, à savoir le saut en hauteur, le javelot, le 100 mètres, le 800 mètres et le relais 4x100 mètres. Depuis, le sport féminin s'est développé et on a des championnes à travers le monde jusque dans les sports extrêmes. Avec l'évolution du monde, les femmes ont également gagné en autonomie et sur le chemin de l'indépendance financière, qui est une quête permanente, l'entrepreneuriat est aujourd'hui la clé de l'autonomie, comme nous l'a précisé Célestine Abibamagou dans l'émission Classico.
C'est la bouée, c'est même l'élément principal qui va nous sortir de ce bourbier dans lequel on se trouve. Parce qu'aujourd'hui, c'est parce qu'on n'a pas encore bien structuré l'entrepreneuriat. On fait les mêmes choses et on reste sur place. On n'a pas structuré. Aujourd'hui, je fais ci, dans 5 ans, je dois être à tel niveau. Bref, on fait toujours les mêmes choses. Pourtant, si c'est bien organisé, si c'est bien appuyé par les gouvernants, ça va résoudre un réel problème. D'abord, le problème de l'emploi. Quand une jeune fille sort de l'université et qu'elle se met à son propre compte, elle devient entrepreneur, on devrait l'accompagner parce que dans 2 ou 3 ans, elle va recruter 2 ou 3 personnes. Et imagine 100 personnes. Donc moi je dis, vraiment l'entrepreneuriat c'est le levier. C'est ça qui va nous sauver.
Une autonomisation qui ne se limite pas qu'au Cameroun et qui permet d'outiller les femmes pour se prendre en charge à travers le continent.
En 2020, j'avais formé environ 700 femmes reparties sur 4 communautés. Donc aujourd'hui, on n'est pas loin des 7000 parce que tous les ans, on forme. J'ai travaillé avec même les communautés centrafricaines.
Les femmes sont aujourd'hui libres de leur mouvement, d'avoir un métier, de gagner leur propre argent sans l'aval préalable de leur conjoint. Chaque 8 mars, le monde les célèbre. Derrière cette date devenue universelle se cache une histoire de lutte, de courage, de mobilisation qui ont traversé les siècles et les frontières. Des usines du 19e siècle aux tribunes des Nations Unies, retour sur la genèse d'un combat toujours d'actualité avec Jérès Nguépi.
Chaque année, le 8 mars, le monde marque une pause. Une pause pour écouter, pour réfléchir, pour mesurer le chemin parcouru et celui qui reste encore à tracer. Cette date, devenue symbole universel, correspond à celui de la Journée internationale des droits des femmes. Mais avant d'être institutionnalisée, elle est née dans le tumulte des luttes ouvrières, dans la ferveur des grandes conférences militantes du XXe siècle. À la fin du XIXe siècle, l'industrialisation transforme les villes d'Europe et d'Amérique du Nord, dont les usines textiles, sous la poussière et le vacarme des machines,
Des milliers de femmes travaillent de longues heures pour des salaires dérisoires. Elles n'ont ni le droit de vote, ni véritable protection sociale. Pourtant, c'est là, dans ces ateliers bruyants, que naît une conscience nouvelle. Des grèves éclatent, des marches sont organisées et en 1909, aux États-Unis, le Parti socialiste américain lance une journée nationale de la femme. Inspirée par ces mobilisations de travailleuses qui réclament dignité et justice, ces manifestations constituent l'un des premiers jalons d'un mouvement appelé à dépasser les frontières. Le tournant décisif est en août 1910, à Copenhague, lors de la deuxième conférence internationale des femmes socialistes. Une centaine de délégués venus de 17 pays se réunissent pour coordonner leur lutte. Et c'est là qu'intervient Clara Zetkin, militante allemande et figure majeure du mouvement ouvrier. Avec conviction, elle pose la création d'une journée internationale des droits de la femme.
Je pense qu'au XXe siècle, la femme ne doit pas seulement être nécessaire à son foyer, mais à la société tout entière. Et je pense qu'elle doit tendre et jouer un rôle à part entière avec l'homme.
Dès 1911, la première célébration se tient le 19 mars en Allemagne, en Autriche, au Danemark et en Suisse. Près d'un million de femmes et d'hommes descendent dans les rues pour participer à des meetings et des marches. Les revendications sont claires, droit de vote, accès aux fonctions publiques, égalité professionnelle. Les foules rassemblées donnent chair au projet de Copenhague et ce jour-là, l'histoire bascule discrètement. Les voix isolées deviennent un cœur international. Quelques années plus tard, en 1917, à Petrograd, des femmes manifestent pour réclamer du pain et de la paix. En pleine Première Guerre mondiale, leur marche déclenche un vaste mouvement de grève qui contribuera au bouleversement politique en Russie. C'est en mémoire de cette mobilisation que la date du 8 mars s'impose progressivement et en 1921, elle est officiellement adoptée comme Journée internationale des femmes dans plusieurs pays. Au fil des années, la journée franchit la frontière idéologique et géographique. Elle quitte le seul cadre du mouvement socialiste pour devenir un rendez-vous mondial. En 1977, les Nations Unies invitent les États à célébrer officiellement une journée consacrée aux droits des femmes et à la paix internationale. Le 8 mars acquiert alors une reconnaissance universelle.
Maintenant, la femme peut gérer ses biens, c'est-à-dire si elle possède soit des immeubles, soit des propriétés, elle peut les faire sans l'avis de son mari.
Elle peut ouvrir un compte bancaire sans demander l'autorisation, elle est tout à fait libre.
En Afrique, la journée s'inscrit peu à peu dans les agendas nationaux. Elle devient un moment de débat, de plaidoyer et de mobilisation citoyenne. Au Cameroun, le 8 mars est aujourd'hui marqué par des conférences, des campagnes de sensibilisation, des défilés et des rencontres communautaires. Il met en lumière les avancées des femmes dans les sphères politiques, économiques et culturelles, tout en rappelant les défis persistants. Accès équitable à l'éducation, autonomie économique, représentation politique et lutte contre les violences basées sur le genre. Ainsi, le 8 mars n'est pas une simple célébration, elle est le fruit d'une longue traversée historique. Depuis les ateliers enfumé du 19e siècle jusqu'aux tribunes internationales, le 8 mars est un héritage vivant, une date qui rappelle que les droits ne tombent pas du ciel mais naissent du courage, une date qui continue d'interroger nos sociétés et de murmurer à travers le temps. L'égalité n'est pas un acquis, elle est une construction permanente.
Notons que pour cette autre célébration, la Commission de la condition féminine se réunit avec les États membres et les ONG de toutes les régions du monde au siège des Nations Unies du 9 au 19 mars prochain pour aborder les défis actuels et les réalisations en matière d'égalité des sexes dans le monde. Merci d'avoir été des nôtres et à très bientôt pour un nouveau numéro de V3 Le Mag.